Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio.
Et si quelque chose en nous-mêmes nous empêchait de faire ce que l'on veut ? Nous avons vu la semaine passée quelques-uns des principaux barreaux que notre existence nous impose. Que nous nous sentions libres ou pas, que nous soyons puissants ou pas, que nous soyons intelligents ou pas, nous sommes toujours et déjà déterminés par notre culture, notre lieu de vie et notre époque. Ce que nous sentons, ce que nous vivons, ce que nous pensons, ce que nous disons est toujours et déjà déterminé, au moins en partie, par les conditions de notre naissance, par les conditions de notre existence. Mais les chaînes qui orientent nos actions, ou encore les nécessités naturelles qui dictent nos décisions, ne sont-elles qu'extérieures à nous ? Ne sont-elles que des lois du monde ? N'y a-t-il pas en nous-mêmes des fonctionnements qui nous sont imposés, des automatismes que nous ne pouvons pas contrôler ? Portons-nous en nous-mêmes des barreaux qui nous retiennent ? Sigmund Freud est le médecin allemand du 19e siècle qui a fondé la psychanalyse. Tout le monde aujourd'hui a déjà entendu parler de la psychanalyse et connaît son nom. Nous proposons de revenir sur son projet de création de science pour mieux comprendre son travail et la pertinence de ses travaux. Freud commence sa carrière comme médecin dans un hôpital, mais sa curiosité et son désir de recherche le conduisent dans toutes les directions. Dermatologie, ophtalmologie, psychologie, neurologie et même hypnose. Entre autres recherches, il tente de soigner des patients par la prise de cocaïne, ce qui s'avérera même fatal pour l'un de ses amis. Pour ce qui est de la psychologie, il s'intéresse à ce qui échappe à notre conscience. Il définit une liste d'événements mentaux pour lesquels nous ne semblons pas avoir de prise. L'acte manqué, le lapsus, certaines somatisations et le rêve constituent pour lui des événements psychiques qui répondent à une certaine logique, mais pour lesquels nous n'avons pas de prise consciente. C'est ainsi qu'il est amené à définir que notre conscience n'a accès qu'à une partie infime de notre activité psychique. Ce qui avait déjà été mis en lumière par les petites perceptions inconscientes de Leibniz. Le reste de cette activité est alors inconsciente. L'inconscience est donc cette part en nous qui se cache de notre conscience et qui détermine pourtant nos actes, nos choix, nos goûts, nos rêves et nos attentes. Freud dit lui-même qu'il participe à la troisième humiliation de l'humanité. La première étant l'héliocentrisme, qui prive l'homme du centre de l'univers. La deuxième étant l'évolutionnisme de Darwin, qui prouve que nous descendons du singe et non plus d'un être infini et parfait qui nous aurait créé à son image. La troisième humiliation est que nous ne sommes même pas maîtres de ce que nous pensons. Même si la psychanalyse a pour but de libérer ce qui, au sein de notre inconscient, empêche notre conscience de trouver une place stable et saine dans le monde, l'inconscient reste une partie déterminante de notre existence. Nos actes inconscients nous révèlent en permanence que nous ne sommes pas si libres de vouloir, de penser ou encore de désirer. Si notre inconscient nous est inaccessible, ne pourrions-nous pas affirmer que notre conscience suit une logique dont nous sommes maîtres ? Les événements psychiques dont nous avons conscience ne sont-ils pas le lieu de notre pouvoir, de notre contrôle, de nos décisions ? Car si je ne suis pas maître de mes désirs, au moins puis-je attendre d'être maître de mes décisions rationnelles, de mes choix conscients. Les biais cognitifs représentent des limites de notre manière de penser le monde. Notre rapport à la réalité n'est pas immédiat. Il passe par nos sens et est filtré par nos connaissances, nos croyances, notre expérience et notre état émotionnel. Les biais cognitifs rassemblent tous les fonctionnements de notre pensée qui s'éloignent ou résistent à la logique rationnelle. Les biais cognitifs ont été mis en évidence dans les années 70 par deux psychologues et économistes, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont remis en question les fondements mêmes de la théorie capitaliste. Depuis près de 3 siècles, les bases de notre système économique reposent sur un présupposé fondamental. Les agents économiques agissent de manière rationnelle et visent leurs propres intérêts. Ainsi, les défenseurs du libéralisme garantissent que les acteurs économiques, en tant qu'agents rationnels, sauront trouver des solutions pour générer du profit à partir de leur travail et de leurs transactions financières. les biais cognitifs montrent que, contre toute attente, nous ne prenons pas toujours des décisions rationnelles en vue de notre intérêt. Par exemple, le biais d'optimisme est un automatisme de pensée qui nous éloigne du comportement logique. Chacun d'entre nous est convaincu d'avoir, en général, plus de chances que les autres. Ce qui explique pourquoi il existe tant de joueurs de loto ou tant de consommateurs de casino. Tous ces joueurs savent qu'en dernière instance, c'est le casino ou la Française des Jeux qui gagne. Pourtant, chacun d'entre eux est convaincu qu'il fera un jour partie des rares gagnants du gros lot, c'est-à-dire qu'il aura plus de chances que les autres de gagner, ce qui est complètement irrationnel. Il n'y a aucune raison que l'un ou l'autre d'entre nous ait plus de chances que les autres, a priori. Un autre biais est celui de confirmation. C'est un biais qui a permis de programmer les algorithmes de nos réseaux sociaux. Le biais de confirmation montre que lorsque nous sommes face à une liste d'informations, nous remarquons et retenons davantage, et en priorité, les informations qui confirment ce que nous savons déjà. C'est-à-dire que, sans que nous en ayons conscience et sans que nous ne puissions rien y faire, nous repérons et mémorisons automatiquement ce qui confirme nos croyances et nos connaissances. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien apprendre. Cela permet seulement de mieux comprendre pourquoi il est si difficile d'enseigner, si difficile de changer, si difficile de s'ouvrir aux arguments qui s'opposent à nos croyances. Ainsi, nous observons différents fonctionnements en nous qui semblent nous éloigner de la liberté. Nous portons en nous-mêmes des déterminismes qui nous imposent une certaine manière de penser, une certaine manière de voir le monde et une certaine manière d'agir. Et nous n'avons pas parlé de neurosciences ni d'épigénétique, qui sont des domaines de recherche dans lesquels nous continuons de découvrir ce qui détermine l'homme, sa pensée et ses actions. Prendre conscience que nous sommes déterminés jusque dans notre manière de penser n'est peut-être pas réjouissant, mais nous permet une fois de plus de prendre du recul sur nos illusions et de mieux nous comprendre. Savoir qu'il y a en nous, dans le fonctionnement même de notre esprit, des biais orientant nos pensées indépendamment de notre liberté, nous aide à gagner en humilité et en tolérance. En me comprenant, il m'est plus facile de comprendre les autres et les divergences qui nous séparent. En observant mon fonctionnement, il m'est plus simple d'accepter mes émotions, mes réactions et mes habitudes. Mais qu'en est-il de ce podcast ? Est-il le fruit de mon inconscient ? Avez-vous écouté cette émission jusqu'au bout parce que vous le vouliez ou parce que vous étiez déterminé à le faire ? Suis-je libre de me poser des questions et de prendre du recul ? Ou suis-je aussi déterminé à douter de mes illusions ? Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de l'autre et de sa liberté.
C'était Le Goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.